Saluer tous ceux qui sont ici pour la seconde semaine qui sont arrivés cette semaine et puis ceux aussi que j'ai pu déjà rencontrer la fois dernière. Nous allons supporter ensemble l'étuve, mais la parole de Dieu a des vertus rafraîchissantes, alors j'espère que nous les ressentirons. Il me semble heureux de préfacer chaque étape de notre travail par une lecture de la parole de Dieu elle-même. Je vous propose quelques versets au début de cette première séance de notre cours de dogmatique, comme on dit, de doctrine chrétienne, dans l'Évangile selon Matthieu. Je vais lire un fragment du Sermon sur la montagne que vous connaissez bien, au chapitre 5, les versets 17 à 20. Après quoi, nous prierons ensemble et je demanderai à Mlle Claire Appéré de nous conduire dans la prière après que j'aurai lu. Alors, je lis, comme il m'arrive assez souvent de le faire quand c'est dans une situation de classe, comme c'est la nôtre cet après-midi, traduisant de manière gauche, mais en faisant ressortir les éléments de l'original qui sont facilement dissimulés par l'élégance d'une traduction en bon français. Comme ça, je peux en même temps faire un petit commentaire en lisant. Donc, Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 17 et suivants. Ne croyez pas que je sois venu... Hein, c'est un verbe très intéressant qui se traduit habituellement détruire, renverser, mais qui vient du verbe délier avec un préfixe qui renforce l'idée et la renforce dans un sens négatif. Délier, défaire un édifice qui est bien lié, dont toutes les parties tiennent ensemble, reste debout. Mais si ça commence à se délier, la ruine est proche. Et l'image du lien est une image qui convient à la notion d'autorité ou de l'obligation, le mot obligation en français venant d'une racine latine évoquant le lien, le fait de lier, ligature. L'obligation qui est la contrepartie de l'autorité. Ne croyez pas, ne pensez pas, n'ayez pas pour opinion que je sois venu délier, saper, miner l'autorité, relâcher l'obligation dans laquelle vous êtes, de la loi et des prophètes. Je ne suis pas venu délier, mais accomplir, plénifier, le verbe accomplir. Et tiré de la notion de plénitude. Amen. En effet, je vous dis, c'est un usage qui semble propre à Jésus de commencer ses phrases par le mot Amen. Et dans le grec même de Matthieu, le terme sémitique, Amen, a été conservé, transcrit. Jésus pose l'affirmation avec toute sa force et sa fermeté en intitulant ces phrases « Amen ». Parfois de façon redoublée, ici sans redoubler. « Amen ». « Amen », en effet, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un iota ou un seul trait, sous-entendu de l'être, ne passera absolument pas de la loi. Ce qu'il faut sans doute entendre comme une figure de style pour désigner les affirmations les plus menues du texte. Jusqu'à ce que tout advienne. Là, c'est le verbe courant pour le devenir ou l'advenir. Donc, quand on traduit que tout soit arrivé, ce n'est pas incorrect, mais ce n'est pas un verbe particulier arriver ou se produire, c'est le verbe le plus courant, advienne. C'est ginomai. C'est le verbe ginomai. Donc, jusqu'à ce que tout genetai. Celui, donc, qui délira. Là, c'est le verbe sans le préfixe, mais vous voyez l'intérêt de remarquer quelle était la construction de l'autre verbe. Celui donc qui délira une des prescriptions, de ses prescriptions les moindres, et qui enseignera ainsi aux hommes, sera appelé le moindre dans le royaume des cieux. Celui, au contraire, mais celui qui fera et enseignera, celui-ci sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous dis que si votre justice, c'est-à-dire votre façon d'être en règle avec Dieu, ce que Dieu peut approuver dans votre disposition et votre comportement, si votre justice n'abonde pas davantage que celle des scribes et pharisiens, vous n'entrerez absolument pas dans le royaume des cieux. C'est absolument pas, c'est ma traduction, pour une forme redoublée, énergique de négation. En grec, vous pouvez utiliser en fait les deux négations, ou aimer, qui peuvent s'employer séparément l'une de l'autre, mais vous pouvez les employer de manière conjuguée pour renforcer. Et c'était déjà le cas un peu plus haut, aucun iota, toute petite lettre, aucun trait de lettre ne passera absolument. Absolument. Et de même, si votre conformité à la volonté de Dieu, votre justice, n'abonde pas au-delà de celle des scribes et pharisiens, vous n'entrerez absolument pas. Ou même. Vous voyez, tous les détails du texte dans l'original sont intéressants à relever, me semble-t-il. Et le sujet, dans son axe principal, correspond bien entendu à celui que nous devons étudier ensemble. Prions maintenant que le Seigneur nous conduise. L'Écriture exempte d'erreur. Vous avez lu le titre et les quelques lignes explicatives du petit fascicule qui annonçait nos cours de l'université d'été. Nous allons étudier le sujet en 5 séances. La première a toujours un caractère quelque peu introductif. Je l'ai placé sous le titre « L'affirmation de l'orthodoxie chrétienne ». Il s'agit de repérer, de manière peut-être encore approximative, le contenu de l'affirmation, l'écriture exempte d'erreur, et de bien se pénétrer de la pensée que c'est une affirmation de l'orthodoxie chrétienne, c'est-à-dire de la droite doctrine, tout au long des siècles de l'Église. En deuxième séance, nous considérerons essentiellement les données bibliques à l'appui de cette affirmation. La troisième séance fignolera, essaiera de cerner de beaucoup plus près ce que l'on doit entendre. La quatrième séance devra traiter des rapports avec le sujet de l'interprétation. Dans l'annonce du cours, j'ai promis qu'on s'intéresserait tout spécialement à ce sujet. Et la cinquième séance aura des exemples d'application des principes que nous aurons vus se dégager de l'Écriture elle-même, que nous aurons considérés entre nous. Les autres années d'université d'été, je dis cela à ma honte, j'ai souvent eu du mal à aller jusqu'au bout du plan, et la cinquième séance a souffert d'une espèce de retard pris au fil des cours. Alors, je me promets, et j'essaye de vous promettre, que nous ferons mieux cette fois-ci et que nous nous contenterons chaque fois sur le sujet annoncé de la séance prévue, sans déborder, tant pis, pour que nous restions dans un meilleur équilibre. Je vous rappelle aussi, pour les anciens c'est un rappel, pour les nouveaux c'est une annonce, que vous êtes libre d'interrompre à tout moment, de poser des questions pour avoir un peu plus d'explications, pour que se clarifie ce qui ne serait pas clair. Donc n'hésitez pas à intervenir, éventuellement aussi, d'emblée pour votre désaccord. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, je pourrais peut-être répondre que je répondrai sur le fond un peu plus tard, mais n'hésitez pas, vous êtes libre. Donc aujourd'hui, l'affirmation de l'orthodoxie chrétienne. On emploie techniquement, depuis quelques décennies parmi les protestants évangéliques, bien que le terme ait été en usage plus anciennement du côté catholique, le mot d'inhérence pour résumer l'affirmation selon laquelle l'Écriture sainte ne contient aucune erreur qui mérite d'être dénoncée comme erreur. Nous aurons à revenir sur la délimitation exacte de la notion, qu'elle est fiable entièrement, qu'à aucun moment nous ne pouvons la prendre en défaut, nous pouvons lui reprocher un écart quant à la vérité. Les évangéliques, nous allons y revenir, ont fait de cette affirmation comme le tranchant de leur confession de foi en l'inspiration plénière des Écritures. Et aujourd'hui, ils sont les seuls à pousser jusqu'à ce point la confiance et le respect des Écritures de la Bible. C'est généralement ce qu'on leur reproche le plus quand on n'est pas de cette aile du protestantisme qui s'appelle maintenant, l'expression est assez largement admise, évangélique, que d'autres appellent aussi très volontiers fondamentaliste. C'est généralement cette affirmation de l'inhérence que l'on considère comme le plus bizarre et le plus inadmissible de tout ce qu'ils mettent en avant. Et même lorsque, par souci pédagogique ou diplomatique ou que sais-je, les évangéliques ne mettent pas ce sujet eux-mêmes d'emblée en première ligne, le dialogue aboutit presque toujours à le faire remonter à la surface, à le mettre au centre des délibérations. J'ai un souvenir qui m'a un petit peu marqué à ce propos. C'était lors de l'assemblée de la Fédération protestante de 1975 qui avait lieu à Paris. Nous nous trouvions, Monsieur Courtial, Pierre Courtial et moi, dans un groupe, un atelier, et les débats s'étaient déroulés, nous étions intervenus, etc. Et je me rappelle qu'à la fin de la séance, il y avait là une étudiante qui faisait un DEA en théologie, si je me rappelle bien, ou peut-être en histoire du XVIe siècle, et qui a glissé chaque fois qu'il y a débat théologique, finalement, c'est toujours à la question d'inhérence qu'on revient. Et effectivement, c'est l'expérience que l'on fait assez souvent lorsque l'on mène dialogue entre évangéliques, certains diraient fondamentalistes d'un côté, et autres théologiens qui ne sont pas de cette conviction. Le critique le plus implacable des évangéliques, qu'il appelle fondamentaliste, James Barr, qui est professeur à Oxford, qui a d'ailleurs reçu il y a quelques années un doctorat honoris causa de la faculté de théologie protestante de Paris, boulevard Arago. J'ai assisté à la cérémonie. James Barr, dans son livre intitulé « Fondamentalisme », fait de l'affirmation d'inhérence le trait décisif, déterminant. Qu'est-ce qui fait d'un fondamentaliste un fondamentaliste? À ses yeux, c'est qu'il affirme l'inhérence et qu'il cherche à la défendre, position que lui-même estime désespérée et désespérante. En fait, très souvent, lorsqu'il s'agit de l'inhérence et dans les débats entre non-évangéliques et évangéliques au sens que nous donnons au terme, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de malentendus et que les positions qui s'affrontent sont souvent déformées dans la représentation que s'en font les autres. Et il me semble donc très, très nécessaire d'aller plus loin que la seule affirmation ou dénégation, de chercher à cerner ce qu'il en est du sujet de l'inhérence avec ses tenants et aboutissants, avec les fondements et les conséquences. C'est ce que nous voulons faire dans ce cours. Alors d'abord, quelques indications sur le terme et sur ses équivalents. Le mot inhérence est simplement décalqué du latin en français, inherentia autia, inherentia, qui n'est pas du latin classique, qui est du latin d'église. Certains diraient de sacristie, mais en fait davantage de séminaire que de sacristie. Il vient, cela se perçoit, je crois, assez facilement, de la racine dont les mots français d'errer et erreur procèdent aussi. La racine errare évoque les écarts, la marche vagabonde, mais aussi très précisément l'erreur, l'écart qui éloigne du chemin qu'on aurait dû prendre et de la vérité lorsqu'il s'agit d'une affirmation. Le verbe errare en latin a donc une gamme de sens certainement plus large que notre verbe errer, mais notre verbe errer correspond bien à un usage de ce terme latin. Il est assez amusant, simplement pour prendre conscience que la gamme de sens du mot latin est plus large que celle du mot errer, de savoir que le mot inhérent est employé rarement en latin et qu'il est employé par Cicéron pour les étoiles fixes, parce qu'elles ne font pas d'écart, parce qu'elles ne vagabondent pas dans le ciel. En tant que fixes, il les appelle inerrantes, ce qui évidemment n'a guère de rapport avec le sens que nous donnons au terme lorsque nous disons que les écrits bibliques sont inhérents. Un autre détail étymologique qui n'a pas de conséquences doctrinales, mais qui est quand même intéressant à relever, il nous montre ce qu'il en est du langage. Et comme nous travaillons sur le langage, il est toujours utile de nous rappeler ces choses. Le mot « errement » en français n'a pas la même racine que le mot « erreur ». Le mot « errement » vient de la racine « iterare » en latin, duquel vient « itinéraire ». Si en français, mais comme en fait les deux images sont très proches, comme errare peut vouloir dire vagabonder, et puis iterare c'est faire un voyage éventuellement avec des détours, etc. Finalement, en français, errement et erreur sont devenus très très proches par le sens. Mais en fait, les étymologies sont tout à fait séparées. Quant aux expressions équivalentes, lorsque l'on parle de l'écriture, expression la plus commune dans le protestantisme depuis le XVIe siècle, c'était infaillible. Infaillible et infaillibilité. Est infaillible celui qui ne faillit pas, qui ne défaille pas, qui ne fait pas défaut. Infaillible était employé couramment pour cette qualité de l'écriture qui lui permet de ne jamais décevoir, de ne pas encourir de reproches mérités de la part d'aucun de ses lecteurs bien informés. C'était le terme classique, et vous pouvez peut-être vous demander pourquoi aujourd'hui on emploie davantage celui d'inhérence que celui d'infaillibilité. À cause d'une évolution sur laquelle nous aurons à revenir, le mot d'infaillibilité qui a été employé au sens de l'inhérence, d'une sûreté entière dans tout ce que l'écriture affirme, a été pris par certains de manière plus souple, plus large, plus lâche, au sens d'un message globalement sûr, conduisant au salut, d'une infaillibilité par rapport à celui qui mise sa vie sur les affirmations centrales, mais non pas au sens d'une perfection dans le détail de tout ce qui est dit. Et du fait que certains employaient le mot infaillibilité de cette façon un peu diluée, édulcorée, alors ceux qui voulaient affirmer l'entière infaillibilité jusque dans le détail ont été conduits à employer le terme d'inhérence qui, ne plaisant pas tellement aux autres, n'avait pas subi, lui, le même traitement édulcorant. Ça peut toujours arriver. En fait, du côté catholique, il y a quelques exemples. Je pourrais peut-être en citer un tout à l'heure. Mais, en général, le mot inhérent chez ceux qui veulent atténuer les choses est un mot qui semble trop dur. Alors ils disent non, ils refusent le mot inhérent, tout en acceptant le mot infaillibilité. Mais classiquement, les deux termes étaient tout à fait équivalents. Et d'autres expressions ont aussi été employées, exemptes d'erreur. C'est une expression moins technique, et c'est aussi pour cela que je l'ai choisi dans le titre global de notre séminaire, de notre cours. Le mot d'immunité à l'égard de l'erreur a aussi été employé. Parfois, c'est sans défaut qui a été dit. Vous avez des formules de ce genre qui se trouvent dans toute la littérature théologique des siècles écoulés. Alors, quel est le contenu de l'affirmation, grosso modo, pour l'instant en tout cas, grosso modo, la profession de foi de la faculté libre de théologie évangélique, FLTE, c'est cela que ça veut dire, commence par la divine inspiration et l'autorité souveraine de la Bible, qui est la parole de Dieu, exempte d'erreur dans les originaux. Ce n'est pas le mot inhérent qui est employé, mais l'expression équivalente, exempte d'erreur, sans doute un peu plus élégante, et ça fait partie donc de la confession de foi, c'est même ce qui est en tête, la confession de foi, assez brève, de notre faculté. Je peux peut-être donner quelques explications supplémentaires à ce propos. D'abord, que veut dire l'expression « dans les originaux » ? Il ne s'agit pas de dire « c'est dans l'hébreu et le grec, langues originales du texte, qu'il n'y a pas d'erreur, certes, cela est impliqué, mais ce n'est pas le point en cause dans les originaux. Si cette précision est ajoutée dans les originaux, ce n'est pas pour dire les traducteurs ont pu faire des erreurs, mais pour dire les copistes ont pu faire des erreurs. Les originaux, ce sont les textes tels que les auteurs inspirés de Dieu les ont produits au début de la chaîne de la transmission. Et parfois, pour être plus précis, pour éviter la confusion avec les textes dans les langues originales, simplement, même s'ils ont été recopiés, on emploie le mot autographe. Vous savez, assez souvent, donc, cette expression exempte d'erreur dans les autographes. C'est surtout dans les pays de langue anglaise qu'on emploie l'expression autographe, autographa. Mais enfin, parfois, vous pourrez trouver ça aussi dans des textes écrits en français. L'expression, d'ailleurs, n'est pas non plus une expression idéale, parfaitement adéquate. Autographe suggère qu'il a été écrit par la personne elle-même. Mais les auteurs bibliques inspirés ont utilisé des secrétaires. Ils n'ont pas tout écrit de leurs propres mains. Vous vous rappelez dans l'Épître aux Galates, l'indication que donne l'apôtre Paul d'écrire juste les dernières lignes de sa propre main, justement. Et de le faire de façon malhabile avec des caractères assez grossièrement formés parce qu'il n'est pas expert en calligraphie. Peut-être a-t-il une maladie des yeux qui l'empêche d'écrire élégamment. Donc, le reste de l'épître n'est pas de sa propre main. Il l'a dicté à son scribe. Donc, quand on dit autographe, ce n'est pas non plus l'expression la mieux trouvée. Mais bon, il s'agit de se comprendre. Donc ça, c'est une précision. Je peux peut-être ajouter, puisque j'ai cité la confession de foi de notre faculté, qu'au début des années 70, en fait, c'est en 70, les professeurs ont réfléchi ensemble à une formulation plus détaillée de ce qu'ils entendent par ces mots de la confession de foi, qui tiennent donc en deux lignes. Et le conseil de la faculté à l'époque a approuvé ce texte qui continue à avoir force de loi sans le statut même de la confession de foi. Force de loi dans notre fonctionnement de faculté. Vous vous intéressez à la faculté, donc ça peut vous intéresser. Et c'est l'avis donc de l'ensemble des professeurs qui ont collaboré à cette élucidation qui ne veut rien ajouter. Il ne s'agit pas d'être plus étroit que la confession de foi, mais de plus explicite, de dire de manière libre de toute ambiguïté, on l'espère, ce que signifie la confession de foi pour ceux qui ont les premiers à y souscrire et à situer leur enseignement dans les bornes qu'elle place. Alors, je pense qu'il peut vous intéresser d'entendre les termes de ce texte. Je vais lire non pas l'ensemble du texte, mais tout ce qui touche à la question de l'écriture exempte d'erreur, même si ce n'est pas précisément sur ce point. D'abord, nous entendons par écriture sainte les livres sacrés du canon juif pour l'Ancien Testament et ceux que reçoivent presque toutes les églises de profession chrétienne pour le Nouveau Testament. Délimitation de ce qu'on appelle écriture sainte. C'est pour l'Ancien Testament qu'il y a vraiment débat, l'opposition entre la tradition catholique et orthodoxe au moins en partie et les protestants quant aux apocryphes que les catholiques appellent deutérocanoniques. Alors, ce que nous l'affirmons du canon que nous reconnaissons, c'est ce qui constitue l'écriture sainte. Statut de l'écriture sainte. L'écriture sainte est le produit de l'œuvre miraculeuse du Saint-Esprit dans l'esprit de ses auteurs ou inspiration. Dieu a pris l'initiative et la responsabilité de leurs paroles. Il les a soutenus et gouvernés dans leurs pensées et leurs expressions pour qu'ils apportent en son nom, dans le langage des hommes, exactement le message qu'ils voulaient. Les modes de l'inspiration ont été divers et demeurent mystérieux. En général, ils ont sauvegardé et même épanoui l'activité personnelle des écrivains sacrés, aussi bien dans la recherche et la conception des vérités transmises que dans leur proclamation et leur mise par écrit. En vertu de cette genèse, l'Écriture doit être reçue non seulement comme témoignage des prophètes et des apôtres, mais comme parole de Dieu lui-même. Elle est parole de Dieu dans un sens aussi rigoureux que si Dieu avait parlé du ciel sans intermédiaire. L'illumination et le témoignage intérieur du Saint-Esprit ne la font pas devenir ce qu'elle n'était pas, mais nous la font reconnaître pour ce qu'elle est déjà et demeure. Caractère. L'Écriture insiste elle-même sur deux caractères qui sont indissociables de son statut, l'autorité et la sûreté. L'autorité de l'Écriture parole de Dieu est la forme concrète que revêt l'autorité magistrale et prescriptive de Dieu sur nous. Elle doit être dite souveraine et ne peut pas être circonscrite à aucun domaine déterminé a priori. La sûreté de l'Écriture parole de Dieu la fait entièrement digne de foi, dans sa révélation de Dieu et de la voie du salut, dans sa relation des faits, dans ses promesses, bref, dans tout ce qu'elle enseigne ou qu'elle affirme. L'autorité et la sûreté valent du tout et de chacune des parties correctement comprises. Aucune proposition dont se rend responsable un auteur sacré ne peut donc être rejetée, dans le sens qu'il lui donne, comme incorrecte ou seulement douteuse. L'infaillibilité ou inhérence ainsi définie concerne évidemment la vérité des affirmations et non leur conformité à des conventions humaines variables comme les règles grammaticales ou les usages stylistiques. Nous reviendrons sur ce genre de choses. Et encore un ou deux paragraphes qui peuvent vous intéresser. Nous ne sommes pas tenus de croire que les copistes des documents bibliques aient bénéficié d'un secours surnaturel. Ils ont commis des erreurs. Ils ont cependant travaillé avec soin, et l'on peut présumer que Dieu n'aurait pas laissé sa révélation se perdre ou se défigurer au cours de sa transmission. Les résultats de la critique textuelle, si incomplets qu'ils soient, surtout pour l'Ancien Testament, permettent de tenir nos textes pour l'équivalent pratique des originaux. Autographe. Équivalent pratique. Ça veut dire que c'est approximatif, mais que, aux fins utiles, nous pouvons les traiter comme représentant adéquatement le texte qui a été inspiré au commencement. Et puis dans le passage sur l'interprétation, malgré l'assistance indispensable du Saint-Esprit, les interprétations humaines restent toutes faillibles. Contraste entre l'infaillibilité des Écritures et la faillibilité des interprétations. En dernier ressort, chaque auditeur, chaque lecteur engage dans sa façon de comprendre le texte une responsabilité personnelle. La tâche d'interpréter ne perd pas pour autant son caractère ecclésial. C'est lié à la pratique communautaire de la vie chrétienne. Et quand les charismes doctoraux du passé et du présent sont mis en valeur, qu'elle peut s'accomplir avec le plus grand bonheur. Voilà quelques lignes donc de ce texte qui permet de se faire une idée d'emblée de ce que l'affirmation « la Bible est exempte d'erreur » signifie. Ce que je viens de lire permet déjà de balayer certains malentendus courants qui souvent font obstacle à la bonne communication quand des évangéliques dialoguent avec d'autres chrétiens. L'affirmation n'implique pas l'inhérence des manuscrits que nous avons en main ou des versions. Puisque les copistes ont pu faire des erreurs, les manuscrits qui sont des copies, nous n'avons d'autographe d'aucun livre biblique. Les manuscrits que nous avons, eux, contiennent effectivement quelques erreurs. On est bien obligé d'en convenir quand on constate d'ailleurs que les manuscrits ne coïncident pas à 100%. Ils coïncident à 99,5% si vous voulez, mais pas à 100%. Si un manuscrit A et un manuscrit B ne sont pas d'accord à 100%, il y en a au moins un qui contient quelque erreur. Il s'est glissé dans la transmission. En même temps, comme nous l'avons dit, c'est pas là une façon de reléguer alors dans un abstrait sans aucun intérêt pour nous l'affirmation de l'inhérence des originaux. Ce serait le cas si les erreurs des copistes avaient complètement défiguré le texte, si nous n'avions pratiquement plus le texte initial, mais si nous n'avions plus qu'un tissu d'erreurs scribales. Mais c'est une hypothèse qui n'est pas à retenir, que sur les bases de la critique textuelle qui est pratiquée par les évangéliques et par les non-évangéliques, à peu près de la même façon, on peut écarter résolument. En fait, le problème de la transmission des textes originaux par les copistes manuscrits à travers les siècles se pose très favorablement pour l'écriture par comparaison avec ce que l'on a pour tous les auteurs de l'Antiquité. Personne ne se met Martel en tête parce que nous avons des différences entre les manuscrits des ouvrages de Platon. Nous n'avons aucun autographe de Platon, bien sûr, non plus. Et en fait, nous avons beaucoup moins de manuscrits que pour le Nouveau Testament. Mais on reconnaît que les copistes ont bien travaillé, donc qu'il n'y a pas à dire « Ah ben nous avons perdu Platon » et tout ce qu'on peut dire de Platon n'a plus aucun sens puisque le vrai Platon, personne ne l'a en main. Il y a des erreurs dans les copies, mais bien sûr, mais ces erreurs représentent une petite marge. Et donc, pour l'essentiel, à toute fin utile, on a le texte de Platon. De même pour le texte biblique. Mais nous reconnaissons qu'il y a quand même quelques erreurs là commises par des copistes. Et de même dans les versions, nous ne prétendons pas que les traducteurs soient infaillibles, eux. Oui, vous aviez une question, monsieur?
Oui, je voulais poser la question à savoir si de nos jours, il y a toujours quelques originaux qui sont plus conservés que les copistes.
Non. Il n'y a aucun original. Alors, il y a eu des débats à propos de mini-fragments, mais grands comme ça, certains datent très très près de l'époque même de Jésus, dès les années 40 du premier siècle, et qui seraient des fragments de l'évangile de Marc. Ça a été une thèse affirmée. Alors là, on serait très près, on pourrait imaginer un autographe. Mais même ça, ce n'est pas affirmé. En général, on pense que c'est une copie très très proche de l'original, de l'autographe, pour ceux qui admettent que c'est bien ça. Seulement, c'est un si petit fragment, oui, que le débat continue. moi, je ne voudrais pas m'appuyer, comme sur un appui solide, sur l'idée que c'est là effectivement un fragment de l'évangile de Marc remontant aux années 40 de l'ère chrétienne. Je trouve que c'est trop spéculatif. Oui, monsieur Guéché.
Est-ce qu'on peut insinuer que le souci de conserver à l'original après sa copie est un souci plutôt contemporain et reflétant notre civilisation occidentale? Il me semble qu'au Moyen-Âge en particulier, on avait plus beaucoup soin de l'original, une fois qu'il avait été bien copié, sa copie avait été vérifiée par les supérieurs du monde, par exemple. Il n'y a pas eu une vénération pour les documents originaux du christianisme. Ils n'ont pas été vénérés comme reliques. Il y a des éléments d'habit ou des éléments d'instruments de supplice des confesseurs qui ont été vénérés comme reliques. Mais à ma connaissance, jamais un document écrit du Nouveau Testament.
Oui. Oui, merci pour cette remarque. Moi, je ne m'y connais pas spécialement. J'accueille cette remarque avec reconnaissance, sans avoir beaucoup d'autorité pour commenter. Donc, écartons ce malentendu, qui en fait peut être double. D'une part, il ne s'agit pas d'affirmer qu'il n'y a pas d'erreur du tout dans nos manuscrits, ce que nous avons en main, qui sont recueillis au British Museum. Non, là, nous reconnaissons qu'il y en a. Ni dans nos traductions. Nos traductions ne sont pas parfaites, elles, à 100%, mille pour mille. Et c'est pourquoi nous sommes toujours en train d'y travailler. Je conclus là 10 ans de travail de révision de la Bible seconde déjà révisée. Donc la Bible seconde 2000, je fais partie du petit groupe qui a travaillé depuis 10 ans là-dessus. Et notre travail ne sera pas non plus infaillible. Inhérent, bien sûr, les traducteurs peuvent errer, mais comme pour Platon, je reviens à cette comparaison, ce n'est pas pour autant qu'on a un ouvrage alors radicalement différent qui n'aurait plus vraiment l'autorité voulue pour représenter l'original. Donc il ne faut pas non plus, du fait que certaines erreurs sont reconnues, dire « Ah bon, l'affirmation d'inhérence, elle n'en a plus de sens ». Oui.
Alors, si nous acceptons que la Bible a été faite, et quand il faut que nous disons vrai, quoique Jésus-Christ n'est pas Dieu, tandis que les adventistes croient qu'on ne le sait pas.
Alors, je pense que pour l'essence, en tout cas avec les adventistes, il n'y a pas un problème de texte, c'est un problème d'interprétation. L'adventisme classique, il y a des débats actuellement. Il y a un numéro de la revue Adventist Ministry dans notre bibliothèque qui est arrivé il y a quelques semaines, j'ai pris quelques notes à ce moment-là, qui montre qu'il y a un très grand débat dans l'adventisme aujourd'hui entre des évangéliques nets adventistes et d'autres qui acceptent des éléments de libéralisme. Mais l'adventisme classique est un adventisme qui affirme l'inhérence de la Bible. Et le débat sur le sabbat est un débat d'interprétation, comme sur les autres points de l'adventisme. Alors avec les témoins de Jéhovah, c'est plus complexe, parce que là il s'agit d'un mouvement que je ne crois pas injurier en disant qu'il a le profil d'une secte, qu'il se fonde sur une révélation extra-biblique conjuguée à la Bible, mais qui opprime en quelque sorte le texte biblique. Alors il y a des éléments parfois de critique textuelle qui sont invoqués, mais d'une façon assez naïve et peu rigoureuse. Par exemple, le fait que le texte sur les trois témoins dans le ciel, dans la première épître de Jean, chapitre 5, ne soit pas original, n'appartienne pas au texte ancien de cette épître, je crois que là, tous les spécialistes évangéliques en conviendront. C'est une addition dans un manuscrit assez tardif, simplement. Ce fait-là, alors, les témoins de Jéhovah le brandissent en disant, vous voyez, c'est l'esprit de mensonge qui a fait qu'on a mis la Trinité. C'est stupide, parce que nous avons ce genre d'interpolation scribale, parfois simplement une note en marge que le scribe suivant a cru une partie du texte. Sur des tas de sujets, ça ne correspond pas du tout à une stratégie de falsification. Par rapport aux témoins de Jéhovah, il peut y avoir certains sujets où la critique textuelle intervient. Mais plus souvent encore, c'est quand même l'interprétation même des textes qui est en cause. Et à propos de quoi il faut leur répliquer. Donc, oui.
Vous avez dit qu'il y a 0,5% des frères qui continuent de toutes les études littéraires, séminaires, etc., ont été rectifiés, on peut considérer.
Oh, là, je pense que c'est pas mieux qu'il faut poser la question.
Si c'est tombé directement du ciel, puisque ça revient de faire ça.
Alors,
c'est juste au niveau de l'interprétation qu'il faut se battre.
Bon, c'est à coup sûr quant à l'interprétation qu'il faut se battre. Mais les différences avec l'inspiration coranique telle qu'elle est, à ma connaissance, habituellement professée par les musulmans, elle peut se rattacher à la phrase que j'ai lue tout à l'heure, la phrase qui définit l'inspiration. Elle est la parole de Dieu dans un sens aussi rigoureux que si Dieu avait parlé du ciel sans intermédiaire. Cette phrase est d'ailleurs presque un décalque d'une phrase de Calvin. Bon, pour ne rien vous cacher, ça a été un travail collectif des professeurs, mais c'est moi qui avais fait le substrat de cette déclaration. J'avais fait le texte de base sur lequel nous avons tous travaillé, et j'avais donc écrit cette phrase en me rappelant une phrase de Calvin qui dit comme si que les Écritures doivent recevoir des fidèles autant de foi et de respect que s'ils entendaient Dieu parler de sa propre bouche. Donc j'avais donné comme une version un peu moins pittoresque de la même phrase dans le texte des professeurs. Mais comme si, c'est ça la différence, comme si le Coran dit c'est sans intermédiaire et il glorifie le prétendu analphabétisme de Mahomet pour dire c'est absolument le miracle, il n'y a rien pour rien, totalement passif, c'est sans intermédiaire. Même avec l'idée que le Coran subsiste au ciel avant. Ce n'est pas la perspective biblique et évangélique. C'est dans un sens aussi rigoureux que si Dieu avait parlé sans intermédiaire, que c'est sa parole, mais ce n'est pas sans intermédiaire, et ça compte beaucoup. C'est seulement pour ne pas que l'intervention humaine des instruments dont Dieu s'est servi pour nous parler devienne un prétexte pour minimiser l'autorité, la vérité, la divinité de cette parole que cette phrase est incluse, mais ce n'est pas du tout pour dire l'intermédiaire humain alors ne compte pas. Ah si, il compte. À d'autres égards, son intervention est tout à fait capitale. La parole biblique est humaine autant que divine. En tout cas, aussi bien que divine. Alors, ça ne doit jamais devenir un prétexte pour que sa qualité divine soit voilée, atténuée, édulcorée, etc. Mais c'est d'une importance capitale. Et en fait, c'est parce qu'il y a un lien à l'incarnation que refuse si fortement l'islam. La parole biblique est une parole qui, non seulement a Jésus-Christ pour objet, mais on pourrait dire a Jésus-Christ pour sujet ultime. C'est Jésus-Christ qui parle par ses apôtres, qui parle par les prophètes qui sont... parle à la fois. Donc l'humanité est tout à fait capitale et c'est là une différence radicale avec la conception coranique qui implique le plein engagement dans l'histoire de la Bible. le contraste là avec le Coran est époustouflant. Moi, je ne veux pas marcher sur les plates-bandes de M. Guéché, mais la Bible est sur 2000 ans, la Bible qui est récit et interprétation d'événements, qui est une grande histoire. Le Coran, pas du tout ça. Dans un temps extrêmement bref, l'ordre même des sourates n'est pas du tout l'ordre chronologique, c'est presque l'ordre inverse. Déshistoricisation de la révélation pour le Coran, alors qu'au contraire, elle est intensément historique, centrée sur une nouvelle pour la Bible. Vous voyez, donc, je ne veux pas développer, surtout que nous sommes dans une séance encore introductive, mais il faut bien saisir que l'affirmation de l'inspiration divine... Non. Donc, premier malentendu que j'écarte, l'affirmation n'implique pas l'inhérence des manuscrits et des versions, tout en gardant son sens, même si les manuscrits, des copistes, peuvent avoir quelques erreurs. L'affirmation n'implique pas non plus l'attribution de toutes les perfections concevables. Certains s'imaginent que si on dit que l'écriture est inhérente, alors on en fait un objet idéal, un objet qui a toutes les perfections possibles et imaginables. Un peu comme la Vierge Marie dans la théologie catholique la plus ardente du côté marial, reçoit toutes les perfections possibles et imaginables qu'une créature peut recevoir. Alors, la ressemblance est d'ailleurs évoquée par Barge dans sa critique. Les évangéliques font pour la Bible un peu ce que les catholiques les plus fervents et traditionnels font pour la Vierge Marie. Mais non. Il est tout à fait possible d'affirmer l'inhérence et d'affirmer, comme Calvin l'a fait, que dans l'Écriture, Dieu balbutie avec nous. Que Dieu fait comme une nourrice qui parle bébé avec les petits bébés, et qui s'adapte. Il y a une condescendance divine, et il y a une faiblesse de la forme biblique que Dieu a assumée, comme la faiblesse de la chair du Christ qu'il a assumée. C'est pas toutes les perfections possibles. Très bien dire, l'écriture, à certains égards, n'est pas parfaite. Il y a des morceaux de poésie qui ne sont pas de la très haute poésie. Il y a des fautes de grammaire, nous y reviendrons. C'est pas toutes les perfections possibles, c'est quant à la vérité. Alors nous essaierons d'expliquer pourquoi il en est ainsi un peu plus loin. Affirmer l'inhérence biblique, ce n'est pas non plus choisir le littéralisme automatiquement quand il s'agit d'interpréter. Beaucoup de gens s'imaginent que si on est évangélique, alors on adopte toujours l'interprétation la plus littérale. Pas forcément. Là, James Barr a bien vu que cette façon d'imaginer la position évangélique est fausse. Il dit en effet, non, c'est pas ça. Les évangéliques sont tout à fait capables de reconnaître des figures de style, des paraboles, et de ne pas interpréter littéralement là où ils pensent qu'il y a des indications qui éloignent du sens littéral. Si la Bible propose une allégorie, eh bien, il faut la comprendre allégoriquement, sans erreur. Mais le fait de dire que le texte ne comporte pas d'erreur n'implique en aucune façon un choix pour une procédure interprétative plutôt que pour une autre. Et puis, dernier point dans ce paragraphe, je ne sais pas si vous avez le plan que je suis, vous pouvez le suivre des yeux ou simplement m'écouter, mais je suis le canevas que j'ai déjà proposé. Affirmer que la Bible est exempte d'erreur ne prétend pas rendre compte de tous les aspects de la vérité de l'Écriture. J'ai trouvé, mais des dizaines de fois, dans des textes de critiques anti-évangéliques, ce reproche que affirmer que la Bible est inhérente, c'est lui attribuer une conception de la vérité qui est pauvre, qui est misérable, la Bible ne nous intéresse pas un répertoire téléphonique, un bottin peut être inhérent, mais ça ne nous intéresse pas en fait. C'est pas la vérité qui nous importe, c'est la vérité pour le salut. Ce discours-là, on le retrouve sous la plume d'un très grand nombre d'auteurs qui refusent l'inhérence. Et nous ne prétendons pas du tout que l'inhérence soit le seul trait intéressant à propos de la Bible, et que l'on couvre tout ce que la notion de vérité biblique recèle, tous ses composants, lorsqu'on a dit inhérence. Non, on en affirme un trait qui a son importance, mais c'est un trait parmi d'autres. Et si nous sommes forcés d'insister, c'est parce qu'on l'attaque, c'est tout. Je vais y revenir aussi, quant aux enjeux. Voilà donc un certain nombre de malentendus écartés. Ma troisième section dans le plan que je suis aujourd'hui, alors, concerne l'histoire de cette doctrine, l'adhésion du christianisme historique, de ce qui historiquement mérite d'être appelé le christianisme. Pour tous les observateurs objectifs, il y a une réalité qui a des contours, parfois un peu ébréchés, mais qu'on peut repérer de siècle en siècle. L'affirmation de l'inhérence de l'Écriture appartient à cette réalité historique. De cela, on ne peut pas douter, et pourtant beaucoup en ont douté. Beaucoup prétendent, parce qu'évidemment, cela sert leur stratégie, que l'affirmation de l'inhérence n'est qu'une nouveauté, une innovation de la fin du XIXe siècle. Que l'affirmation de l'inhérence n'aurait jamais appartenu vraiment à la foi chrétienne, à l'orthodoxie qui s'est élaborée dans les premiers siècles avec les pères de l'Église, qui a été maintenue au long du Moyen-Âge, qui a reçu sa forme protestante après l'œuvre des réformateurs au XVIe siècle. Certains qui ne veulent pas souffrir à l'inhérence, mais qui ne veulent pas non plus se détacher de cette grande tradition, essaient de plaider que l'inhérence a été rajoutée à la fin du XIXe siècle. Je crois que ce point de vue a été radicalement réfuté, qu'il n'en reste rien de solide, qu'au contraire, on peut affirmer de manière très nette que de siècle en siècle, l'affirmation de l'inhérence biblique, ou infaillibilité, le fait qu'il n'y a pas d'erreur, se trouve répétée par les représentants majeurs du christianisme historique. Et j'ai une citation que je vous ai transcrite, qui le dit avec une force admirable. C'était un grand érudit, qui dans sa propre doctrine a fait une ou deux petites entorses, d'ailleurs, un catholique, au début du siècle. Si le consentement unanime des pères n'est pas une chimère, si la constance, la perpétuité et l'universalité d'une doctrine est une règle de foi, il n'est pas de dogme plus solidement établi que l'inhérence de l'Écriture. Ça, c'est de l'artillerie lourde. Cette affirmation est massive, je crois qu'elle est incontestable, que c'est vraiment, en effet, ce que l'on peut constater, en commençant peut-être même plus haut que les pères de l'Église, en commençant par le judaïsme. Le judaïsme de l'époque biblique a lui aussi affirmé l'inhérence scripturaire, l'entière divinité de l'Écriture. Il n'y a jamais, sur ce point, de contestation entre Jésus et les docteurs du judaïsme de son temps, puis entre les apôtres et les mêmes un peu plus tard. Ils s'opposent sur l'interprétation. Ils s'opposent sur l'addition de la tradition des scribes et anciens à cette écriture. Mais sur cette autorité entière et vérité entière de l'écriture, il n'y a absolument aucun dissentiments qui apparaissent. Et je voudrais vous lire simplement une citation d'un traité du Talmud. Bien sûr, elle a été écrite un petit peu plus tard, mais représente une tradition qui vient de l'époque biblique elle-même, dans le traité Sanhédrin du Talmud. À qui s'applique le verset « pour avoir méprisé la parole de Dieu » Nombre 15, 31. À celui qui prétend que la Torah ne vient pas de Dieu. Même s'il affirme « toute la Torah vient des cieux », excepté tel verset que le Saint béni soit-il n'a pas dit, mais Moïse de sa propre initiative. Il est désigné par le texte qui dit « pour avoir méprisé la parole de Dieu ». Et même s'il affirme « toute la Torah vient des cieux, sauf tel point de détail, sauf tel raisonnement a fortiori, sauf tel raisonnement par analogie, il est celui qui méprise la parole de Dieu ». Ce souci dans ce judaïsme est très intéressant à relever. Je peux ajouter que Philon, le grand philosophe juif qui était à Alexandrie, qui a vécu environ jusqu'à l'an 40 de notre ère, donc qui est un contemporain du Nouveau Testament, il souligne, d'après cette question dans l'Exode, que l'écrivain sacré a reçu, outre la vision qui confère valeur à l'intelligence, une protection spéciale de Dieu pour obtenir la vérité de l'expression. Et malgré sa méthode allégorique d'interprétation, de nouveau je cite un spécialiste, de même que la lettre des prescriptions de la loi n'est jamais répudiée, de même la réalité historique des événements rapportés par la Bible n'est jamais niée. Philon d'Alexandrie. Vous trouvez chez Flavius Joseph, l'historien, en particulier dans son écrit contre Appion, des affirmations qui vont dans le même sens. Je n'ai rien vu dans les textes de Qumran, je ne suis pas un spécialiste de Qumran, j'en ai pratiqué quelques-uns, qui aillent dans un autre sens. En fait, et ça c'était dans une discussion avec un spécialiste du 1er siècle de l'Institut catholique de Paris, Charles Perrault, je n'ai jamais entendu mentionner qu'un seul passage de toute la littérature juive rattachable au 1er siècle où un doute par rapport à l'entière vérité et divinité de l'écriture était en cause. C'est dans un livre qu'on appelle le pseudo-Philon, parce qu'un temps on l'attribue à Philon, appelé le livre des antiquités bibliques. Charles Perrault avait évoqué ce point. Alors j'ai après ça été chercher le passage, je l'ai trouvé dans ce livre. En fait, ce n'est pas ce livre qui met en doute l'entière véracité jusque dans le détail du texte de la Bible. Le livre des antiquités bibliques censure ceux qui le feraient. Alors, ça laisse effectivement ouverte la possibilité qu'il y a eu dans le judaïsme des négateurs. Mais c'est vous dire que même dans ce livre, l'unique passage, c'est une position contraire qui est adoptée. Donc le judaïsme de l'époque biblique affirme cette inhérence. Ensuite, nous avons des témoignages. Le plus ancien des auteurs, sans doute, qu'on peut mentionner, c'est Clément de Rome, à la fin du 1er siècle, avant même la fin du 1er siècle, qui affirme qu'il n'y a rien d'injuste ou de faux dans les Écritures. Il y a un texte qui est très intéressant, j'espère que je vais le retrouver. Parce que mon problème, j'ai beaucoup de notes prises au fil des années, et je risque de m'emmêler dans mes notes. Mais voilà, un texte de Justin Martyr. Justin, on l'appelle Martyr parce qu'il a subi le martyr, qui était un philosophe avant sa conversion, et qui a été donc un des premiers penseurs du christianisme au milieu du IIe siècle. Justin Martyr, dans son dialogue avec un rabbin, déclare « Je n'aurais pas l'audace de penser ni de dire que les Écritures saintes se contredisent entre elles. Si on apporte quelques passages qui motiveraient cette opinion en apparence, comme je suis convaincu et pleinement persuadé qu'aucun texte de l'Écriture n'est en opposition avec un autre, j'avouerai quant à moi ne pas comprendre ce qui est dit. Je tâcherai de faire partager ma conviction à ceux qui suspecteraient une contradiction. » Et tous les autres pères de l'Église emboîtent le pas, vont dans le même sens. Origène malgré la liberté qu'il prend dans l'interprétation, malgré des doctrines un peu douteuses avec lesquelles il semble avoir flirté par moments, c'est un très grand esprit, affirme très fortement dans son commentaire du psaume 1er que l'écriture est entièrement inspirée de Dieu, pleinement divine, sans le moindre écart, jusqu'à la moindre lettre. Il insiste énormément, il exclut l'idée de faute de mémoire de la part des évangélistes. Origène est un témoin très 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 fort. Et on peut citer Saint Grégoire de Nazianze au siècle suivant, citer Saint Épiphane également dans son traité contre toutes les hérésies, et puis Saint Augustin. Le passage le plus intéressant de Saint Augustin est très proche de celui de Justin Martyr dans son épître 82, où il écrit à Jérôme. Là aussi, il explique ce qu'il fait quand il tombe sur quelque chose qui semble une erreur. Il dit, eh bien, là, pour moi, il n'est pas question de penser qu'il puisse y avoir une erreur dans les textes canoniques. Il dit bien, c'est aux écritures canoniques seulement que j'ai appris à faire entièrement confiance. Alors si quelque chose me paraît une erreur, je dis, c'est peut-être mon manuscrit. Il fait déjà la distinction entre les originaux et ce que les copistes lui ont livré. C'est peut-être la traduction, c'est peut-être simplement moi qui ne comprends pas. Il envisage ces diverses possibilités. Il a écrit tout un livre intitulé « De l'accord entre les évangélistes », « De consensu evangelistarum », pour précisément résoudre les apparences d'erreur qu'il y a quand on compare les évangiles entre eux. Il est vrai qu'il semble par moments que les évangélistes ne soient pas d'accord. Et jusqu'à nos jours, les spécialistes évangéliques travaillent à la solution de quelques difficultés. Il y a eu un très joli article dans Fac Réflexion, hein, un peu de pub pour Fac Réflexion, par M. Jacques Buchold, sur une des difficultés entre les évangiles synoptiques à propos des recommandations de Jésus à ses disciples qu'il envoie en mission. Un ou deux bâtons. Et Saint Augustin écrit tout un livre pour résoudre le problème de ces apparences d'erreur. Il ne concède absolument pas qu'il puisse s'agir d'erreurs réelles. Et il s'agit de trouver la solution. Donc les pères de l'Église, je ne suis pas conscient d'un seul passage à l'encontre chez les saints pères de l'Église. Ils ne sont pas tous aussi précis que ceux que je viens de citer. Mais je ne suis pas conscient qu'un seul passage puisse être cité dans un autre sens que cela. De consensu en latin, donc de consensu evangelistarum, et ça se traduit donc de l'accord entre les évangélistes. Comprenez donc bien les évangélistes, les auteurs des évangiles. Donc pour les pères de l'Église, je crois que la chose est très claire et parmi les livres que je vous donne en bibliographie, vous trouverez les ressources voulues pour examiner cela. Au Moyen-Âge, on continue dans la lancée. Et saint Thomas d'Aquin, le plus grand des maîtres du Moyen-Âge, est très précis dans cette affirmation qu'il n'y a pas d'erreur et qu'il s'agit de l'autorité des écritures canoniques. Il distingue très nettement entre les écritures canoniques et la tradition même. Il ne les oppose pas, mais il distingue. Et à propos de cette sûreté absolue des écritures canoniques. Longtemps, on a fait d'Abélard, avant saint Thomas d'Aquin d'ailleurs, Pierre Abélard, au milieu, fin de la première partie du XIIe siècle, un témoin d'un autre point de vue critique qui aurait débusqué des erreurs dans l'écriture. Abélard a souvent été représenté comme un penseur libre qui avait secoué le joug dogmatique et en particulier la doctrine de cette infaillibilité biblique. En fait, On s'est trompé d'ailleurs en particulier parce que un manuscrit d'Abélard, c'est là qu'on retrouve la critique textuelle, un manuscrit d'Abélard avait une lacune. Il manquait deux lignes. Et du coup, on lui a fait dire, de bonne foi d'ailleurs, parce que c'était le manuscrit comme ça, on lui a fait dire le contraire de ce que de meilleurs manuscrits redécouverts ensuite ont montré être son véritable enseignement. En fait, Abélard est effectivement un esprit très agile, qui annonce les temps modernes par son aptitude à la critique, qui a écrit tout un ouvrage, ou peut-être assez malicieusement, enfin, je ne veux pas trop spéculer sur ses intentions, il mettait en regard des passages apparemment contradictoires. Il a appelé cet ouvrage « Sic et non », oui et non. Des pères de l'Église. Mais son commentaire est très clair. S'il envisage que les pères de l'Église puissent se contredire réellement, il l'exclut pour l'Écriture. Il fait la différence. Abélard ne concède pas qu'il y ait de véritables contradictions, donc erreurs, dans l'Écriture. Alors on peut dire que c'était encore, disons, un reste de l'ancienne mentalité, que ce qui est intéressant chez lui, c'est la liberté qu'il a prise avec les pères de l'Église, que peut-être il se montrait simplement prudent. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut spéculer. Mais en tout cas, dans ce qu'il a énoncé, il n'y a pas l'affirmation d'une erreur. Lorsque l'attitude critique, mentale critique, s'est développée davantage avec la Renaissance, avec l'humanisme, qu'en a-t-il été? Érasme a se flageolé. C'est intéressant de savoir. Il semble qu'il ait admis de toutes petites erreurs dans les évangiles, toujours à cause de ces différences qui apparaissent pour les évangiles. Mais il a fait réagir tout de suite à ce propos. Et à ce moment-là, il a dit « Oh non, mais c'était seulement à titre d'hypothèse comme une opinion que je ne partage pas. » Alors, tenait-il à sa peau et a-t-il simplement... ou bien était-il sincère dans ses dénégations? Je ne peux pas non plus le dire. Bon, chez Erasme, il pointe ou juste très timidement l'idée qu'il pourrait y avoir une petite erreur. Mais... Et dès qu'on le met en cause à ce propos, il se rétracte ou il bat en retraite, en tout cas. Et les réformateurs? Alors, je n'ai pas... Je vois qu'il me reste 4 minutes, donc je n'ai pas le temps de développer. Nous pourrons y revenir aussi, parce que nous rebrassons toujours les mêmes sujets. Luther est très souvent présenté comme un théologien attaché à l'Écriture, à coup sûr, un grand prédicateur de l'Écriture, mais qui n'a pas hésité à la critiquer, qui, au nom de la supériorité du Christ à l'égard de l'Écriture, l'a considéré comme un texte éventuellement erroné, un texte qui peut être dénoncé comme n'ayant que la valeur de la paille, la fameuse expression sur l'évangile, sur l'épître de Jacques, épître de paille, très très souvent cité. Et pendant un certain temps, je vous avoue que j'ai admis cette pensée. Luther est tellement imprévisible, Luther est un tel volcan, que je me suis dit, oui, bon, il a sans doute dit des choses un peu contradictoires, et il a, au moins à certains moments, affirmé qu'il peut y avoir des erreurs dans l'Écriture, qu'elle en contient, effectivement. Et puis, j'ai fait un travail plus suivi avec des auteurs très, très compétents, dans des études fouillées, en particulier Michael Roy et Wilhelm Hoesch. Et j'étais obligé de me convenir que ce n'est pas le cas. Alors, j'ai écrit, sur la base de ce travail, un article qui a été présenté en diverses publications et qui se trouve dans le recueil Dieu parle, où je donne de très nombreuses références. En fait, Luther a affirmé avec une force énorme, tout ce qu'il affirmait, il affirmait avec une force énorme, l'infaillibilité, jusque dans le détail, le fait que la Bible est vraiment Dieu qui nous parle, et non seulement en gros, mais jusque dans la plus menue des affirmations. Et tout ce qu'on cite à l'encontre, en fait, c'est une série de citations qui fait deux pages, alors qu'il y a 50 gros volumes des œuvres de Luther. Tout ce que l'on cite à l'encontre, si on scrute, on se rend compte cela n'est pas réellement une affirmation d'erreur dans les originaux inspirés par Dieu. Le point décisif, qu'on a souvent négligé, c'est qu'il s'agit bien sûr de prendre les écritures canoniques, et que Luther, effectivement, a expulsé Jacques du canon. Donc, quand il critique l'épître de Jacques, et bien sûr, il ne la traite pas comme un texte inspiré. On ne peut pas faire jouer ce qu'il dit sur Jacques pour établir sa doctrine des écritures canoniques, puisqu'il l'a expulsé de son canon. Alors, je déplore qu'il ait expulsé de son canon, mais vous voyez, c'est l'erreur principale qu'on a faite à propos de ces passages que l'on cite, toujours les mêmes d'ailleurs, pour dire que Luther n'a pas affirmé l'inhérence. En fait, il l'a affirmé, et s'il y a eu inconséquence de sa part, c'est quant au canon, aux limites du canon, et pas ailleurs. Pour Calvin, il y a un beaucoup plus grand nombre de gens qui reconnaissent qu'il a enseigné l'inhérence. Je compte écrire un article, ça fait 2-3 ans que j'ai envie de l'écrire, j'ai commencé, j'ai amassé déjà des... mais je n'ai pas encore écrit. Calvin, même des gens qui ne partagent pas cette opinion d'assez grands spécialistes hostiles à l'inhérence pour eux-mêmes, reconnaissent que Calvin l'a enseigné. Mais il y a quand même des gens qui, à cause de la taille de Calvin, son envergure, parce qu'ils ne veulent pas, je pense, se sentir sur une autre voie que celle de Calvin, et qu'eux-mêmes ne veulent pas de l'inhérence, il y a quand même un certain nombre d'auteurs qui refusent de reconnaître qu'il a enseigné l'inhérence. Je crois pouvoir prouver qu'il l'a enseigné et qu'il s'y est conformé, mais de tout ça nous pourrons reparler si vous avez envie d'en reparler dans des sessions ultérieures. Pour ce qui concerne la suite, eh bien, nous aurons l'occasion aussi de le voir dans le réexamen des différents sujets. Voilà, c'est l'heure, donc je tiens ma promesse, au moins pour la première fois. Je ne vais pas plus loin pour la pause, surtout que vous avez un autre cours avec M. Gache.